Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Geneviève et Catherine se sont connues en 6e au collège de filles du boulevard des Bonnes Manières à Montargis. Elles ne se sont jamais quittées. L'une aimait la poésie, Éluard, Rimbaud, l'autre les contes et les romans d'aventure. Elles sont devenues écrivains, l'une en poésie, l'autre en littérature jeunesse. En 1989, France Culture a mis en onde leur première fiction à deux voix sur ce thème commun, 51, l'année de leur naissance. Geneviève a titré son texte « Les glaces » du nom d'un café de perdition, place Mirabeau à Montargis. Catherine a intitulé le sien « Les années d'absence » pour dire combien elle marchait, inconsciente et, comme on dit, tout à fait à côté de ses pompes. Nous l'écoutons maintenant. Née en 51, « Les années d'absence », un texte de Catherine de la Clergerie, mise en onde, Marguerite Gâteau.
Née en 51, les années d'absence de Catherine de la Clergerie.
Il ne s'est rien passé. Longtemps comme ça. Ensuite, je me suis battue dans les prés avec les voyous du bout de la rue.
Avec Bernadette Le Sachet.
Janvier 62. France, le plus beau paquebot du monde. 9 juillet, les prêtres abandonnent la soutane. 3 juillet, l'Algérie est indépendante. Consternation à Hollywood chez tous les cinéphiles. Marilyn Monroe est morte, victime d'une forte dose de barbiturique. Crise de Cuba, le monde tremble. Le premier mort du mur de Berlin, 17 août. Nous sommes sur un monticule de terre, assis, dominant le paysage, moi et mon frère plus petit. Autour de nous, les prés. Les voyous du bout de la rue viennent au loin et se rapprochent. Le plus large est un grand de 14 ans au moins. Le plus féroce, un rouquin à la figure et aux vêtements sales. Il nous coupe la retraite et il nous lance des pierres. Nous descendons. On va se battre. J'argumente pour un combat à la loyale. Je les prendrai un par un pendant que les autres regarderont sans bouger. Le roux veut commencer. Il est nerveux mais assez petit. Je l'étends par terre et je place mes genoux sur ses biceps jusqu'à ce que les veines de ses tempes deviennent bleues de douleur. Le gros s'interpose mais il est timide et je suis en colère. Il sent la bouse de vache. Je l'étends dans l'herbe. Plus personne ne veut se battre. Nous partons. Aussitôt, je reçois une grosse pierre derrière la tête, mais je ne me retourne pas. J'ai une bosse, et mes cheveux sentent la merde à cause de la bouse collée autour du caillou. De la fenêtre de ma chambre, je regarde les champs en tâtant ma bosse, en sentant mes doigts. Tout m'évoque la bataille. Nous sommes dans les champs du côté de la Quintaine, avec un ami. Les voyous du bout de la rue arrivent plus nombreux que l'autrefois et s'approchent pour se venger. Nous courons nous mettre à l'abri derrière des tronçons d'arbres en faisant provision de pierres. Nous sommes en mauvaise posture. Maintenant, Pelletier, l'apprenti pâtissier, saute par-dessus la clôture. Lui et son frère sont des voyous du quartier de la Quintaine qui n'ont rien à voir avec ceux de la rue Lazare-Carnot.
On s'est battu contre eux l'an dernier, à coups de marron sur la place. Il crie, il donne des gifles. Il a 16 ans. Les voyous s'enfuient en nous injuriant. Nous serrons la main de Pelletier. Il porte une blouse grise. Il a un triste visage, long, avec des dents sales quand il sourit. Je sors de l'école du Chinchon, boulevard des Bonnes Manières, et je descends la rue Dorée jusqu'à la Botte d'Or, où j'attends maman qui doit m'acheter des tennis à 5h30. En fait, je dis toujours 5h30, bien que je sois en 6e cette année. Pelletier, l'apprenti pâtissier, me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « J'attends ma maman. » Il sourit avec ses dents sales. Il demande « Tu m'accompagnes ?» Je ne peux pas refuser à cause de l'autre jour. Et puis, il dit « C'est pas loin. » Je marche à côté de lui toute la rue de la République. Puis une autre. Nous marchons. C'est de plus en plus loin. Je m'étonne. Tu livres pas ? Pas encore. Je veux retourner, mais il m'assure que c'est tout prêt. Oh, je n'aime pas ces gens vautrés sur les bancs qui s'embrassent sur la bouche. Chez nous, on s'embrasse pas, même la joue. J'évite de les regarder. Il traverse et s'engage dans une allée sans maison qui borde le canal. Nous arrivons à une sorte de presqu'île. On ne peut pas aller plus loin. Je dis, ce coup-ci je retourne, t'as pas livré. Il répond, tu m'embrasses avant. Non. Et je m'en vais. Mais il m'attrape par mon poignet. Embrasse-moi, lâche-moi. D'accord, mais tu m'embrasses. J'essaie de me libérer, mais il est plus fort que moi. Alors je finis par faire ce qu'il me demande. Je l'embrasse sur sa joue. En faisant un bruit, pas comme ça. Comment ? Je crie, pas comme les amoureux. Si, non, je n'ai que 11 ans, lâche-moi. Si tu me lâches pas, je crie. Il hésite et desserre son étreinte. Je me sauve en courant, je l'entends qui m'injurie. Je lui crie très fort, cochon ! Et je cours sans me retourner jusqu'à la Botte d'Or. Je cours et j'ai de plus en plus peur et honte de m'être laissé prendre à ce piège. Heureusement, il n'a pas pu mettre sa bouche sur la mienne. J'arrive en courant, maman est là, je crie, je suis en retard. Et je pleure à moitié. Maman dit, mais 5 minutes, c'est pas grave, calme-toi.
Des groupes organisés, de véritables émeutiers, armés de manches de pioche, de boulons, de morceaux de grille, de pavés, d'outils divers, ont attaqué le service d'ordre, en particulier boulevard Beaumarchais, rue de Charonne et rue de Turenne.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu.
Les désordres ont duré près de 3 heures. 83 arrestations ont été opérées.
Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Le triste bilan des manifestations d'hier au soir à Paris est le suivant. Du côté des forces du maintien de l'ordre, 140 blessés, dont 35 hospitalisés et 10 grièvement atteints. Du côté des manifestants, 110 blessés connus, 5 décédés étouffés ou piétinés par la foule et 3 morts des suites de heurts avec la police.
J'ai nagé et plongé. J'ai couru autour des bords glissants de la piscine, marché nu-pieds sur la poutre en tenant mes bras écartés pour ne pas perdre l'équilibre. Maintenant, je saute d'un coup dans le sable et je monte les gradins en courant. Je m'assieds à côté de maman, au soleil. Il va falloir que tu mettes un petit haut. Pourquoi faire ? T'es trop grande. Je me regarde effrayée, mais je ne vois rien d'anormal. Je ne veux pas mettre de haut. Ah, ça se voit maintenant, les garçons se moquent de toi quand tu passes. C'est pas vrai. Si, ils te regardaient quand tu étais sur la poutre et ça les faisait rire. Je regarde la poutre et les garçons, toujours eux. Quelque chose se débat dans ma bouche fermée. Tout. Tout le monde. Maman. Même Mademoiselle Le Quéré, je ne l'aime pas, elle veut m'apprendre les ourlets dans son rez-de-chaussée pendant que maman fait ses courses. Elle dit « dehors » au lieu de « dehors ». Mais au moment de partir, elle a serré ses doigts tordus sur mon bras en hochant la tête tellement elle en était certaine. C'est un garçon manqué. J'ai tout de suite su qu'elle avait raison. Maman a même souri, donc c'est vrai. Je suis un peu manquée. Bon, mais alors, elle peut pas continuer à me parler comme si j'étais une fille. Et ne me dites pas qu'il va me pousser une poitrine. Je regarde droit devant moi. Je ne me résous pas. Je trouve que les garçons, ceux de la première catégorie, n'ont rien fait pour mériter leur paradis. Ça a déjà sonné. Il faut se dépêcher. Je suis dans les lavabos avec Angèle. La première fois que j'ai vu Angèle, elle donnait l'impression de quelqu'un qui n'y connaît rien à rien. Elle courait partout en cherchant dans quelle rangée de sixième il fallait se mettre avec une drôle de coupe au bol et des yeux rétrécis au milieu de ses épais verres de lunettes. Au début du trimestre, Madame Ollier s'est levée avec son paquet de copies corrigées. Si cette rédaction n'avait pas été faite en classe à l'occasion d'une composition, jamais je n'aurais voulu croire que vous l'aviez faite seule, sans aide extérieure. Et elle nous a lu sa copie, où il était question à un moment de statut d'ange asexué. J'essayais de me les représenter. Je les voyais blancs. Et quand j'ai raconté ça à maman, elle a dit « c'est un génie ». Maintenant qu'on a quitté le Chinchon pour le lycée en forêt, Angèle bavarde souvent avec Joséphine, surtout pendant les cours de gymnastique. Et quand je m'approche, Joséphine me dit « N'écoute pas ça, c'est pas de ton âge ». Joséphine, elle se tient droite pour tout mettre en avant, bien pointue, sous son pull chaussette. Et elle dit « Tu diras à ton frère que j'adore les roues, surtout avec des grosses lèvres qui embrassent bien ». Elle dit ça sérieusement, en le regardant de loin, au milieu des mathélèmes. Mais jamais je ne pourrais répéter une chose pareille. Il y a une frontière dans la rue Lazare-Carnot. D'un côté, le goudron est rose sale pour Chalette, où j'habite, et noir brillant les 50 derniers mètres qui correspondent à Montargis. Au bout, c'est la Nationale 7. Mais tant qu'elle traverse Montargis, on l'appelle l'avenue de Gaulle. Il s'avance vers moi sur cette avenue. Je le regarde tout le temps qu'il s'approche. Il traverse et s'arrête au début de la déviation. Il porte un sac à dos, des cheveux châtains, plus longs que les miens. Je savais qu'il en existait, mais c'est le premier que je vois. Debout contre le ciel, grand, magnifique. Je suis dans la cuisine devant une tartine. Je pense à lui.
Et voici Interactualité.
Jean-Claude Héberlé au micro. Est-il nécessaire de vous rappeler que c'est demain le 14 juillet, c'est-à-dire tout à la fois le 176e anniversaire de la prise de la Bastille, le jour du fameux défilé sur les Champs-Élysées, ce défilé où traditionnellement les grands-pères conduisent les enfants, et le jour de l'arrivée du Tour de France.
la Dauphine traverse tranquillement les Landes. L'air chaud, parfumé des pins, entre par les vitres baissées. Je suis assise, à l'arrière, à côté de ma tante Olga. Mon oncle conduit. Nous sommes allés chercher mon cousin Sylvain à Bordeaux. Sylvain est assis à l'avant. Je vois son cou bronzé, son maillot rouge-rose, ses épaules et les muscles de son dos. Une vraie allure de gitan, avec des yeux bleus, caressants. Mais je ne vois pas ses yeux, rien que sa nuque bronzée, tout le temps, et ses boucles noires chauffées par le soleil. Je me penche. Je pose mon menton sur le dossier avant. Je me rapproche encore et je l'embrasse dans le creux de sa nuque. Près d'Arcachon, nous nous arrêtons sous les pins. À un moment, il me regarde particulièrement. Le soir même, après le dîner, j'assiste au feu d'artifice du 14 juillet. Je suis assise au bord du trottoir avec Sylvain. Les fusées éclatent dans le ciel noir et plongent dans la mer, illuminant le port. J'embrasse Sylvain sur la joue. Il m'embrasse doucement la main et il la garde dans la sienne. Il dit « On est assis sur le trottoir comme des beatniks ». Je réponds « J'aime être un beatnik. Si tu voulais, je partirais avec toi et on irait partout, ailleurs. On voyagerait tout le temps. » Il me presse la main et il rit. J'insiste, ce soir si tu veux. Maintenant. Il rit. Et il parle d'autre chose. De liberté. Quantité de monde autour de nous. Les fusées partent à un rythme accéléré. Il pose doucement ses lèvres sur mon cou. Le ciel s'illumine. Des cascades d'étincelles blanches ruisselle le long des tours, tout explose dans un bruit de tonnerre. Je sens une marque brûlante sur mon cou et le plexus solaire qui me lance par éclairs. Je pourrais mourir maintenant. Il m'attire à lui et m'embrasse le cou et la joue. Je souffle, pas sur la bouche. Il ouvre les yeux et demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Je réponds « Je ne veux pas qu'on m'embrasse sur la bouche. Jamais. » Il dit « Tu me rassures ? Je croyais que tu avais changé. » Et il tient compte de ce que j'ai dit. Chaque baiser qu'il me donne me brûle. Le lendemain matin, je cours le réveiller. Il sourit dès qu'il me voit. Il n'a pas oublié. Après le petit déjeuner, il dit à ma tante « J'emmène le catou à la plage. » Il dépasse la plage, le parc, jusqu'à un môle en contrebas. De là, on plonge directement dans l'océan. On peut aussi y descendre par une échelle. Après le bain, on s'étend sur la dalle chaude. Il tourne la tête de l'autre côté et il s'endort. Je ne dors pas. J'ai des problèmes avec mon maillot de bain, une pièce. Les trucs sont moulés dans une matière assez dure et trop grand, ce qui fait que lorsque je m'allonge à plat ventre et que je me relève, ils restent tout aplatis. Et je dois discrètement les décabosser d'une pression des doigts par l'intérieur. Ce qui fait que je n'ose pas me serrer contre lui tant que je suis en maillot. Quand il se réveille, je me mets sur le dos. Et je me demande comment font les filles avec leur maillot. Sinon, avec lui, je suis tranquille. Il fait tout d'une manière spéciale. Il ne marche pas. Il danse. Il n'embrasse pas. Il pose ses lèvres sur ma peau. Il me demande pourquoi je n'aime pas les garçons. Je dis, il siffle quand je passe et il ne me laisse jamais tranquille. Fais-leur un sourire et ils te laisseront tranquille. Quelques jours plus tard, je croise un garçon avec un bonnet de chalutier. Il me siffle sur l'autre trottoir. Je lui fais un sourire. Il sourit aussi et il passe. Ça a marché. J'adopte cette méthode. Ma tante, si calme d'habitude, fait presser le mouvement. Vite, me voilà dans le train. Vite, j'ai embrassé tout le monde. Sylvain monte sur le marchepied et dit « Je l'accompagne jusqu'à la prochaine station. » Tante Olga commande « Descends, le train va partir. » Il descend, le train part. Sylvain, ce nom, c'est lui tout entier. Et c'est tout ce qu'il me reste. Je le répète, Sylvain, et je reste appuyée à la fenêtre du couloir. J'aimerais qu'un homme, en passant, s'arrête et mette doucement son bras autour de mes épaules. Il ne dirait rien. Je ne le regarderai pas. Il saurait que c'est ça qu'il me faut. Pas plus. Mes épaules sentent déjà le poids du bras qui vient de se poser avec tendresse. Des hommes passent, ils ne s'arrêtent pas. Tout le long du voyage, je reste debout dans le couloir et j'attends ce bras qui viendrait se poser sur mon épaule.
France Inter, Pierre Charpentier présente le journal d'Interactualité.
Pour la moitié nord de la France, c'est le grand jour depuis ce matin 8h. 5 millions d'écoliers ont pris le chemin de la classe. Les autres, dans le sud, n'auront plus longtemps à attendre. Dans un peu plus d'une semaine, ce sera leur tour. Les premiers à montrer l'exemple, ce sont les maternelles et les communales. Les lycées suivront, pour eux, la rentrée sera échelonnée.
Je rêve à côté de maman qui rêve aussi. Je reviens d'Angleterre où j'ai eu mes 15 ans. La rame du métro fait un bruit de ferraille. Il paraît que tu étais très tendre avec ton cousin Sylvain. Je rougis. Une dame me regarde. Tout le monde peut entendre ce que l'on dit dans le métro. La dame détourne les yeux. Je dis sans lever la voix. Vous ne comprenez rien. Maman se récrie aussitôt. Mais c'est ta tante qui ne comprend pas, pas moi. Mais je n'ai pas du tout envie de parler. C'est comme si j'avais été cambriolée à l'intérieur. C'est bientôt la rentrée des classes. J'ai aidé maman à faire son lit. On tire. Tout est net. Je m'assieds sur le bord. Je ne veux pas retourner à l'école. Je dis, j'ai eu le brevet, ce n'est pas la peine que je continue en seconde. Maman dit, tu fais comme tu veux. Je la regarde. Elle sourit, les yeux calmement agrandis. Elle est sincère. Je suis libre. Je reviens à pied du lycée. Presque un an maintenant que je pleure la nuit. Et la nuit, c'est le mieux. La journée, je n'écoute pas. Je ne m'aperçois même pas que je suis en classe. Je ne travaille pas et je ne m'amuse pas non plus. Je voudrais ne pas manger, pouvoir rester vide à l'intérieur. Mais il faudrait s'expliquer, alors je mange et je repousse mon assiette en disant « je ne mangerai plus jamais ». J'arrive au pied du pont de chemin de fer. Ma main droite saisit ma main gauche, comme pour m'aider à monter la côte. Ma main gauche sent le contact de la main droite. Je les sépare et je les laisse se rejoindre. À nouveau, ma main droite saisit ma main gauche et lui serre les doigts. Je réalise que j'ai ce pouvoir de me séparer pour me sentir, moi, avec moi. Je ne serai plus jamais seule, quoi qu'il arrive. Je me dédouble à volonté. Je suis deux. À nous deux, on va s'en tirer. Pressé dans le métro au milieu de gens, tous ces gens entassés, et leurs reflets sur les vitres de la rame contre le noir du tunnel. Mais qu'est-ce qu'ils font là, tous? Il y a une erreur. Tous ces gens croient qu'il faut absolument qu'ils soient là. Ils trouvent tout à fait normal d'y être et ne se posent aucune question. Ça me paraît d'instant en instant plus évident qu'il n'est absolument pas obligatoire que tout soit exactement comme maintenant. Il y a forcément eu quelque chose de plus simple au départ, et c'est cette chose-là qui est vraie. Tout me paraît clair. Il suffirait de retrouver ce qu'il y a eu au départ, et pour ça, il faut réfléchir. Remonter par la pensée jusqu'à l'origine, comme on le ferait d'un arbre à sa graine. C'est tellement extraordinaire que personne n'ait jamais pensé à ça, alors que c'est si simple, si évident. Ça crève les yeux. Je vais penser. Et quand j'aurai découvert la vérité, je leur dirai. Et tout ira mieux pour tout le monde. Tout le monde dira « C'était donc ça ?» J'ai grimpé sur le toit du garage, au fond du jardin. De là, j'ai une vision d'ensemble de ce monde que j'ai compris. Le monde physique et corporel n'est rien. Je m'allonge sur les tuiles chaudes et je reste face au ciel. Mon regard se perd dans le bleu. Mon corps est inexistant. Monsieur Vaillant est notre professeur de français. À Monsieur Brun, de 23 ans, qui vient de Paris avec un accent des Pyrénées-Orientales. C'est sa première année au lycée en forêt, et beaucoup de filles sont maintenant amoureuses de lui. Aujourd'hui, il parle de Diderot qui a prouvé que tout était dans tout et comment toutes les choses physiques sont explicables dans leur évolution car elles font partie d'une chose unique, la matière. À la fin du cours, je vais le voir et je lui dis « C'est drôle, j'ai déjà pensé des choses pareilles ». Il me dit « Dans la vie, il faut savoir que quand on pense ou fait quelque chose, quelqu'un l'a déjà fait ou pensé avant vous. » Aujourd'hui encore, il parle de Phèdre. « Bon, qu'est-ce qu'elle veut finalement, Phèdre ? Elle veut coucher avec son fils. » J'aime bien être couchée et quelquefois avec quelqu'un, mais je n'aime pas la façon dont il a dit ça. Je raye « couché » de mon vocabulaire. Diderot était un philosophe. Ma sœur est en philo, je lui emprunte son manuel Alquier. Je ferme ma porte au verrou, j'enlève tout ce qui peut se trouver sur la tablette de mon secrétaire et je commence par l'introduction. Les phrases sont parfois difficiles à lire, mais il est bien question de la même recherche sur la vérité. Je descends dîner, mais le soir je m'installe à mon secrétaire et je lis la suite, et à la fin j'ai les oreilles rouges. Pour le moment, je ne vois rien que je n'ai déjà pensé. Les théories de Descartes et de Platon ne sont que des confirmations que je suis sur la bonne voie.
Au micro, Jacqueline Baudrier. Ce matin, c'est le bac dans l'Académie de Paris. Un bac qui ne ressemble pas aux autres, puisqu'il sera entièrement composé d'épreuves orales. L'École nationale des beaux-arts a été évacuée ce matin par la police de ses occupants, qui pour la plupart d'entre eux n'étaient pas des étudiants.
Au deuxième cours de philosophie, Madame Poli commente les copies que nous lui avons rendues au premier cours. À votre avis, qu'est-ce que la philosophie ? Elle dit : une personne dont je ne citerai pas le nom a écrit : la philosophie, ça aide à s'en sortir quand c'est trop difficile. Je ne veux absolument pas que l'on fasse cette erreur. Je vous mets en garde contre cette idée reçue, fréquemment répandue. C'est le fait d'un caractère paresseux. Cette personne fait montre d'une grande lâcheté. Chacun regarde son voisin comme s'il avait pété. J'en fais autant pour qu'on ne me découvre pas. Ce n'est pas possible. Elle n'a pas compris ce que je voulais dire. Ou alors on ne parle pas de la même chose.
ORTF Information, Alain Fernbach, Ralph Pinto, Jean Stricker et Roger Cornet font pour vous le point de l'actualité.
D'abord, les titres de notre journal. Mexico, après l'expulsion de Juan Carlos et Tommy Smith, plusieurs athlètes américains pourraient boycotter les Jeux Olympiques.
Assemblée nationale, la commission des finances a étudié le budget de l'éducation nationale en augmentation de 20-50% sur celui de 1968.
Le Parlement tchécoslovaque ratifie le traité sur le stationnement temporaire des troupes soviétiques.
J'ai eu mon bac. Fini de rester éveillé toutes les nuits pour profiter de ces seuls moments où on ne me demande rien. Christiane Favreau me propose d'aller passer les vacances en Bavière. Mes parents nous accompagnent en voiture. Nous nous arrêtons le soir à Karlsruhe chez un aviateur. Au dîner, l'aviateur est préoccupé par une série de catastrophes aériennes. C'est le 5e avion militaire qui s'écrase en quelques mois. Et dernièrement, un jeune officier a violé une jeune fille. Il a été dégradé publiquement. Le visage de ma mère se brouille comme chaque fois que l'on veut aborder un sujet pénible ou simplement important. Elle hoche vaguement la tête et il parle d'autre chose. Je partage une chambre avec Christiane. En me déshabillant, je demande « qu'est-ce que ça veut dire violer ?» Christiane Favreau se redresse et s'appuie contre le radiateur sous la fenêtre. « Tu sais ce que c'est faire l'amour ?»« Oui. Eh bien, c'est faire l'amour quand une fille n'en a pas envie. »« Oh ben, c'est pas si grave que ça. » Elle me regarde. « Tu sais vraiment ce que ça veut dire, faire l'amour ?»« Oui, je sais, bien sûr, c'est pas drôle d'être forcée. » Elle dit « laisse tomber, tu sais pas ce que c'est. » »« Mais si, et je laisse tomber. » Je vois très bien la scène. Le garçon embrasse de force la fille sur la bouche, et en plus il est tout nu. Je reconnais que c'est pas drôle. J'espère quand même qu'il n'existe pas quelque chose de pire.
L'image est là, vous entendez la salle de presse de Houston qui applaudit. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. Et effectivement, Armstrong suit les conseils que lui a donné encore récemment le Dr Berry et descend extrêmement lentement avec beaucoup de précaution. Un barreau après l'autre, bien sûr, mais il faut un temps infini, semble-t-il, à ce pied pour atteindre le barreau suivant. Ça n'a pas l'air provoque du tout, du tout, du tout. Ça y est, le pied est sur un barreau, mais il a bien mis 5 secondes à y parvenir.
Pas un bruit. C'est la nuit, et je mène mes propres recherches sur l'origine de la pensée. à l'Institut catholique où j'ai dû m'inscrire parce que j'ai eu mon bac en province, il n'y a pas un seul vrai philosophe avec qui discuter des choses fondamentales, comme je l'avais espéré en arrivant à Paris. Juste une fille, qui lève le doigt de temps en temps pour des interventions pertinentes. Mais en dehors des cours, je l'entends discuter de régime pour maigrir, à l'ananas. Côté philosophe, il reste un espoir, avec Heidegger, qui est allé le plus loin possible dans l'étude de l'être. Demain, j'irai voir. Même si je dessine dans les marges de mon classeur des étangs, des sens interdits. Je lis tous les graffitis sur la porte des chiottes de Sancier. Les citations, les hurrahs pour les femmes, les revendications, les commentaires et leurs réponses. En attendant les cours, on bavarde sans connaître nos noms ni nos prénoms. Ce grand frisé est déjà prof dans une école privée, bien qu'il soit en deuxième année, comme nous. Il se marre. Faut avoir les élèves que j'ai. J'ai dit à une fille l'autre jour, « Bon, et toi, tu te touches la nuit ?» Elle est devenue rouge et elle n'a pas répondu. Souvent, il rigole au sujet des filles vierges, et ça les intéresse toujours de savoir si elles le sont ou pas. Le frisé me parle. Je réponds, « Oh, moi, j'aime plutôt les filles. » Il dit, « Toutes les filles disent qu'elles sont lesbiennes pour être à la mode. » Ça porte un nom, comme communiste, roux, réactionnaire. Ça arrive donc à d'autres.
Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas.
Je suis tout habillée sur mon lit. Le lit d'enfant de Pierre-André qu'il nous a prêté pour cette année. Pierre-André est le petit ami de ma sœur. Il vient de temps en temps dormir ici. La porte s'ouvre. Ma sœur sort de sa chambre et traverse la mienne. Elle stoppe. Tu peux pas rester comme ça. Elle travaille d'arrache-pied des histoires de balance des paiements enfermées dans la chambre contiguë. Elle me regarde et elle dit « Tu peux pas rester comme ça ?» Je n'ai besoin de rien. Évidemment, tu vas pas bien. Et là, mes yeux me piquent malgré moi. Parce que t'as déjà 19 ans et que plus on attend, plus on s'en fait une montagne. Écoute, moi, ça s'est passé à 16 ans. Et je ne m'en suis même pas aperçue. Je t'assure qu'il n'y a aucun problème. Mais fais-le maintenant, sans trop attendre. Je dis, tu sais, quand j'avais 11 ans, il y avait un type, Pelletier. Ça y est, j'ai réussi à dire son nom. Une espèce de voyou qui m'a entraîné au bord du canal et qui m'a forcé pour que je l'embrasse. Et moi, ça me dégoûtait tellement que j'aurais préféré qu'il me pousse dans le canal. C'est peut-être depuis cette histoire que je n'aime pas les garçons. Je ne l'ai jamais dit à personne. Tu es la première à qui je raconte cette histoire. Elle dit... « D'accord, c'est pas drôle, mais t'avais 11 ans. Tu peux pas rester toute ta vie là-dessus. De toute façon, t'as pas besoin pour ça d'être amoureuse. Choisis-en un qui te paraît pas mal, et puis vas-y. Ensuite, tu n'y penseras plus. » Je n'y ai jamais pensé jusque-là. Et on risque pas de tomber enceinte la première fois, parce que le sang, c'est plus épais, et ça empêche la fécondation. Je ne dis rien. Elle dit « Si tu veux, je te prête Pierre-André. » Me prêter Pierre-André ? Elle qui m'a fait toute une histoire au début de l'année parce que je lui avais emprunté son dentifrice. Il faut que ce soit important. Elle a peut-être raison. Je vais chercher de mon côté.
ORTF, ensemble du réseau, France Inter, France Culture, France Musique. Il est 13h, le journal de 13h présenté par Yves Mouroussi.
La Marseillaise a retenti ce matin sur les Champs-Élysées. Elle a éclaté dans un silence peut-être plus pesant que jamais en ce 11 novembre 1970. Au moment où le président Pompidou rendait hommage aux soldats inconnus, on ne pouvait s'empêcher de penser au soldat le plus prestigieux dont la voix s'élevait souvent au balcon de nos hôtels de ville.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la...
Tout le monde doit choisir un sujet d'exposé pour l'UV d'esthétique. Mon voisin a envie de faire quelque chose sur Éden, Éden, Éden de Guyotat. C'est un livre interdit dont il a un exemplaire. Il s'appelle Ontarius. J'accepte de faire l'exposé à deux parce que je n'ai pas d'idée et que le titre me plaît. Ontarius a un ami qui suit les cours sur Derrida à la Sorbonne. J'ai pris exactement comme eux, un demi-pression, dans ce café du boulevard Saint-Michel. L'ami parle, il est suédois et il s'appelle Dominique Garnier. Il dit « L'autre jour j'ai écrit cette phrase » et il l'inscrit sur un papier pour qu'on puisse se rendre compte. Dans un wagon de banlieue peuplé de Marocains. Il est écrivain dans la lignée des surréalistes. Son prochain livre sera un policier surréaliste qui débutera avec une histoire de valise qui fume. Il a les yeux bleu-vert. Je n'arrive pas à savoir s'ils sont bleus ou verts sous les néons. Mais ils sont étranges et brillants. Je les regarde et il me sourit vaguement. C'est le jour de l'exposé. Je sais que Éden, Éden, Éden se passe dans un pays chaud et que Guyotat habite sur le même palier qu'Ontarius. J'explique par geste à Geneviève Clancy que j'ai une extinction de voix et je m'assieds au premier rang. Ontarius s'installe au bureau sur la chaire. Il bredouille un début d'exposé en expliquant qu'il s'agit d'un livre interdit. Une fille lève la main. « C'est ludique ?» C'est elle qui a fait l'exposé la semaine dernière sur Artaud. Elle est montée sur la chaire, elle a demandé le silence et elle a dit « Je devais faire aujourd'hui un exposé sur le théâtre de la cruauté d'Artaud. En fait, je ne vous en dirai rien parce que je crois qu'on ne peut pas en parler sans contredire à l'esprit même d'Artaud. » Et elle est allée se rasseoir. Geneviève Clancy lui a mis 18. Clancy est d'accord que Éden, c'est ludique. Et comme Ontarius ne dit pas grand-chose, elle commence à expliquer les choses en faisant des croquis au tableau. Un cercle pour les discours dominants, une croix plus loin pour le discours subversif, et à la fin tout le monde est d'accord pour penser que l'idéologie dominante pose une grille récupératrice sur la réalité et que les choses subversives restent en dehors de cette grille parce que la bourgeoisie ne peut pas les récupérer, au moins pour un temps. Et c'est justement à cette position extérieure non récupérable, livre interdit, que l'on reconnaît que c'est subversif. Dominique Garnier vient me chercher à l'appartement de la Tour Eiffel pour aller voir un film underground au Trocadéro. Nous arrivons au milieu du film. Des gens entrent et sortent de la salle du Palais de Chaillot. On ne reste pas jusqu'à la fin. Nous marchons la nuit, place de la Concorde, Saint-Michel. Rue Saint-Séverin, il sonne à une porte cochère. Nous montons un escalier étroit, un seul étage. Il ouvre une porte, c'est chez lui. Très peu d'affaires, quelques livres. À ma montre, il est 1 heure. Trop tard pour prendre le métro. C'est bien comme ça. Il demande « Tu ne rentres pas ?» Je dis non. C'est ok. Nous sommes debout au milieu de sa pièce, entre le lit à gauche, le mur à droite et la porte derrière mon dos. Il déboutonne ma chemise et en écarte les pans. Ça ne me fait rien d'être nu. Je pourrais l'être dans la rue si c'était permis, quand il fait chaud. Il dit « T'as des seins de petite fille ?» Et aussitôt, il ajoute « Tu verras, après ça va te développer et tu seras vraiment comme une femme. » Il doit s'y connaître, puisqu'il a tout de suite vu, sans que je le lui dise, qu'il ne m'était encore rien arrivé. Nous sommes sur le lit du haut, allongés. Il lit à haute voix un poème d'André Breton, tandis que je suis le texte des yeux. Ma femme au sexe de glaïeul, ma femme au sexe de cristal. Tout le poème. Je ne connaissais pas. Je n'ai pas étudié Breton à l'école et je ne lis pas, en dehors des textes de philosophie. C'est long, ce poème. Et il se répète. Ma femme aux fesses de... quelque chose. Ensuite, il se met sur moi, écarte un peu mes jambes
et il appuie à un endroit, un peu, puis fort. Oui, que ça fait mal. Je n'étais pas prévenue de cette douleur. J'essaie d'y résister. J'essaie. Et puis je dis « Attends, ça fait mal. » Il dit « Ça ne fait mal qu'au début, ensuite ça va. » Il recommence. La douleur atroce emplit mes oreilles, envahit mon cerveau. J'essaie de tenir, mais je le repousse un peu, puis fort, parce qu'il ne veut pas s'en aller. Il dit « Tu n'es pas détendue, détends-toi. » Je dis « Je crois que je ne vais pas y arriver. » Je pense vaguement à ma sœur. Peut-être que je ne suis pas douée, ou alors je m'y suis prise trop tard. Il dit « Bon, on réessaie. » Je dis « Non, écoute, ça fait trop mal. » Il veut quand même essayer de dos. De dos, ce serait plus facile. On essaie de dos, c'est-à-dire que je lui tourne le dos, il se met contre moi et il essaie. Mais ça fait mal. Et j'en ai marre. Il dit « Bon, on n'y arrivera pas ce soir. Il n'y a qu'à dormir et demain tu seras plus détendu. » On dort. Le matin, il me montre des dessins de Chirico et il me parle des surréalistes. Puis on réessaie. Décidément, ça fait mal. Il s'arrête un moment, il me regarde. Il dit en secouant la tête « Il faudrait te dépuceler dans une baignoire. Dans une baignoire, ça marcherait. Si on fait l'amour dans l'eau, ça supprime la douleur. Je fais des fois l'amour dans une baignoire. Ou alors, quand tu aurais tes règles, ça passerait mieux. » Mais chez lui, il n'y a qu'un lavabo. Alors, il m'allonge à nouveau sur son foulard indien, déplié, et on réessaie comme ça. Puis il se redresse brusquement. « Ça alors ?» J'ai éjaculé, regarde, à force d'essayer, c'est parti tout seul. Il me fait toucher le foulard. C'est tout gluant. Ça doit faire partie de tout ce truc de garçon. Il se relève et ne continue plus. Il neige à la fenêtre. Il dit « Quand il neige, j'ai les yeux verts. » C'est vrai. Et puis aussi, quand j'étais petit, je patinais sur les lacs gelés en Suède. C'est l'heure d'aller en cours. Je m'habille. Je suis prête à sortir. Il dit « Tu ne vas pas sortir comme ça, sans avoir lavé mon foulard. Mais c'est ta faute s'il est mouillé. » Je lave le foulard gluant dans l'eau froide du lavabo. Je me dis « C'est pas drôle le mariage. » Je suis en face de ma mère, devant une limonade au café Rostand. Le Luxembourg a déjà des petites feuilles vertes. Il fait du soleil. On doit retrouver ma tante vers midi pour déjeuner. Ma mère est gaie, comme toujours. Elle me donne des nouvelles, elle parle, et puis elle dit « Ça ne va pas ?» Je commence à pleurer, et je dis « J'aime les femmes. » Je n'aime pas les garçons, j'aime les femmes. Je pleure dans ma limonade. Ma mère est un peu interloquée, mais elle dit gentiment « Ce n'est pas grave, c'est une histoire d'hormones. On ira voir un docteur et il te fera quelques piqûres. » Je pleure dans mon verre et je dis « Je crois que je suis enceinte. » « Comment ça ?» Je la regarde et je dis « Je crois bien que je suis enceinte. » Et puis je ne dis plus rien. « Mais tu n'es plus vierge ?»« Si. » Elle me regarde d'un air soupçonneux et elle demande « Tu sais comment on fait les enfants au moins ?» Je relève la tête. « Oui, je sais. J'en sais au moins autant qu'elle maintenant et il est bien temps de s'inquiéter si j'ai pu apprendre ce genre de choses toute seule. »« Mais tu es allée avec un garçon ?» Je dis « Oui. » »« Et tu es vierge ?»« Oui. » Maman n'a pas l'air de me croire, mais elle panique un peu, vu mon air. Mais comment c'est possible que je sois allée avec un garçon? Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je n'essaie pas de me justifier. Je suis d'accord avec Sartre qu'on est entièrement responsable de ses actes. On décide d'aller voir un docteur, une gynécologue. On descend au téléphone du sous-sol et on cherche dans les vieux annuaires, boulevard de Courcelles, gynécologue. Maman téléphone. Est-ce qu'elle pourrait nous recevoir dès cet après-midi? C'est pour une urgence. C'est sans doute rien, mais... À 2 heures? Je suis rassurée. Maman s'en occupe. Maintenant qu'on a un rendez-vous, j'ai l'impression moi aussi que tout ça c'est pour rien, mais ce sera bien de le savoir. Nous sommes toutes les deux assises en face de la gynécologue, derrière son grand bureau verni. Maman dit « Voilà, ma fille pense qu'elle est peut-être enceinte, mais elle dit aussi qu'elle est vierge, avec un petit rire pour excuser cette bêtise. » La gynécologue coupe « Ça arrive, c'est très rare, mais enfin ça peut arriver. Quel âge a votre fille ?»« 19 ans. » Elle se tourne vers moi. Je dois lui expliquer. Oui, j'ai eu un rapport avec un garçon. Enfin, j'ai essayé, mais il n'a jamais pu entrer. À un moment, il a éjaculé. Je suis gênée de dire ce mot devant maman. Je ne sais pas si c'est grossier ou si c'est scientifique. De l'extérieur, oui. Non, je n'ai jamais eu d'autre rapport et je n'ai pas mes règles depuis 2 mois. Elle calcule mes dates. Elle dit « Ça ne me paraît pas possible, mais on ne sait jamais. Je vais l'examiner. » Elle me fait déshabiller dans une pièce à côté et elle arrive. Elle me fait allonger sur une table de docteur, me fait écarter largement les jambes et poser les pieds dans des étriers de fer froid. Mon corps se met à trembler. Qu'est-ce qu'elle va me faire dans cette position? Elle s'approche et elle plonge subitement sa main dans l'endroit, glacée et tranchante comme un couteau. Mais c'est vraiment un couteau ou une grosse cuillère à soupe. Je crie. Je me débats, je la repousse avec mes mains. Elle arrête et elle me dit « Tenez-vous tranquille maintenant ou je vous attache les poignets. » Et elle me montre les sangles de cuir qui pendent de chaque côté. Je recommence. Elle recommence aussitôt en cherchant à enfoncer le couteau. Je hurle de douleur et de terreur pour qu'elle arrête et avertis ma mère. La tête de maman apparaît à travers la porte. Elle demande timidement « Ça ne va pas ?» La gynécologue dit d'un ton sec « Je ne pourrai pas l'examiner. Elle ne veut pas se tenir tranquille. » Et elle repart à grande enjambée dans son bureau. Je fais une grimace à maman à travers mes larmes pour lui montrer que vraiment je... Et je me rhabille en vitesse. Nous nous rasseyons côte à côte, en face de la gynécologue, derrière son grand bureau. Elle dit « Je ne peux pas affirmer que votre fille soit vraiment vierge. Il m'a semblé que l'hymen était déchiré. » Et elle me regarde d'un air sévère. Ma mère dit « Elle a fait de la danse quand elle était petite, et aussi du cheval. » Mais comme elle ne veut pas se laisser examiner, elle se tourne vers ma mère, « Je vais vous envoyer dans un laboratoire d'analyse avec une ordonnance. Et quoi qu'il en soit, si elle ne peut pas se retenir, faites-lui donner la pilule. » Ma mère la remercie, et nous nous enfuyons. Je déteste les mots qui désignent la femme, comme si on avait cherché ce qu'il y a de plus vilain. Grossesse, vagin, mais j'écoute quand même les explications de Pierre-André. Alors l'œuf va se fixer sur la paroi de l'utérus qui se plisse. Si tu veux, ça fait comme les poils d'un tapis qui le retiendrait et il ne risque plus de se décrocher. Je pose une question. Pierre-André arrête ses croquis et s'écrie « Mais d'où tu sors, ma pauvre fille? C'est pas possible de ne pas savoir ça à ton âge. Ma mère a eu le bon sens de m'acheter des manuels et à 14 ans, je connaissais tout ça. » J'ai compris ce qu'est un avortement. Je demande, pour la forme, « Le chirurgien va m'endormir ? » ?»« Ça, c'est moins sûr. Je ne peux pas te garantir qu'il te fera une anesthésie. » Je dis, « Mais ce n'est pas possible.
Je ne pourrais pas, je ne suis même pas ouverte. Il faut qu'il m'endorme. Écoute, tu veux le garder ? Non. Alors pas de caprice, sinon on annule tout. Il est encore temps. Non. Non. Il me reste l'espoir que peut-être je ne suis plus vierge si l'hymen est déchiré. Peut-être que je ne l'ai jamais été. Quand j'y pense, tout ça pour rien. À Sancier, Carole Fouillou me parle d'une société qui cherche des gens pour travailler à mi-temps. Rond-point des Champs-Élysées, sur l'esplanade, j'avise la descente piéton du parking souterrain et je gagne les sous-sols. À gauche des parkings, dans un bureau vitré de la société GTM, Madame X est d'accord. Tous les matins, 6 francs de l'heure. Je peux commencer tout de suite. Les matins suivants, je m'arrête une minute au soleil avant de descendre 5 heures dans les sous-sols. J'envoie des prospectus de vente d'appartements. Je les plie en 3 dans le sens de la longueur. Je découvre des techniques pour aller plus vite. J'en plie un grand nombre à l'avance. Je les glisse dans des enveloppes que je place à plat sur le grand bureau. Les parties à coller ouvertes vers le plafond. Je prends un rouleau de mousse et je mouille tous ces bords gommés alignés en pyramide. Le chef de service vient souvent voir ce que je fais. Il dit « Vous allez vite ?» Je ne réponds pas. Je garde mes yeux fixés sur mon travail. Ça l'agace. Mais il ne peut rien y redire. Alors il répète « Vous travaillez drôlement vite ?» Et il avance, mine de rien, sa main vers moi, en détachant tout spécialement son petit doigt orné d'une grosse chevalière en or armoriée. Je l'emmerde. Il reste là, mais il ne sait pas que je ne suis pas là. J'ai gardé au moins ça de mes années de philosophie. Je laisse mon corps assis, mes mains plient, collent sans moi. Je suis partie. Et il reste béat devant un corps vide. Ma sœur rentre à la maison. Elle se précipite aussitôt vers moi. Écoute, je n'ai pas pu résister. Et maintenant, il ne reste plus rien sur le compte. C'était tout ce qu'il nous restait, mais il était tellement joli. Regarde cet ensemble, en tissu cloqué. Elle sort des vêtements d'un sac. Oui, c'est pas mal. Sûrement, du tissu cloqué avec des petits traits horizontaux. Elle répète, le compte est à 0 maintenant, mais ne t'inquiète pas, de l'argent on va en retrouver. Je revois tous les matins de ces mois passés dans le sous-sol sans soleil. Elle me regarde. Elle hésite. « Si tu veux, je te le prêterai de temps en temps. Tu pourras le mettre. » Justement, je ne m'habille jamais. Et surtout pas des jupes. Je me couvre, un point, c'est tout. Il y a un malentendu, comme souvent. Ça ne date pas d'hier. Je regarde ces vêtements qu'elle me propose. Et je réalise ma situation telle que je n'ai jamais voulu l'envisager. Voilà la cause des malentendus. Je n'ai pas envie de me sentir déguisée, pas envie que des garçons me courent après. Et pourtant, je suis une fille. Tout est à recommencer.
Né en 51. Les années d'absence de Catherine de la Clergerie avec Bernadette Le Sachet. Philippe Bouillette, Anne Pioz, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Thank you.
Vous venez d'entendre « Né en 51, les années d'absence » de Catherine de la Clergerie, diffusée la première fois le 10 avril 1989 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
There's an old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long change is gonna come.